Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richer, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean Frédérics. C'était il y a 15 jours, le tribunal correctionnel de Paris décidait finalement de relaxer le député UMP Henri Guénot. Il était poursuivi pour ses attaques publiques proférées en mars 2013 contre le juge Jean-Michel Gentil, juge qui venait de décider de la mise en examen de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, au préjudice de la milliardaire Liliane Bettencourt. Alors, fin de l'épisode. Pas sûr, car normalement en France, on ne critique pas la justice impunément. Le fait de chercher à jeter le discrédit sur un magistrat est puni par la loi. Alors, pourquoi Henri Guénot a-t-il été relaxé et faut-il s'en inquiéter ? Au nom de la séparation des pouvoirs, nombre de personnalités se sont offusquées qu'un homme politique puisse remettre en question l'autorité d'un juge. Mais il faut dire que la frontière entre critique et discrédit n'est pas toujours évidente à distinguer. Et il ne faudrait pas oublier que la critique a aussi ses vertus. Après tout, pourquoi une institution serait-elle intouchable ? Les magistrats n'ont pas toujours bonne réputation dans l'opinion publique. Une critique peut-être plus libre pourrait renforcer la confiance des Français dans leur justice. Alors, peut-on critiquer les décisions de justice ? C'est notre sujet du jour. Et ils sont trois invités ce soir pour en discuter. Françoise Martre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature depuis 2013. Vous êtes conseillère à la cour d'Agen, à la cour d'appel d'Agen. Vous avez aussi été juge d'instruction. Oui. Vous nous rappelez la représentativité, le chiffre de la représentativité de votre syndicat actuellement ?
Eh bien, en 2013, nous avions réalisé 25,2% aux élections à la commission d'avancement, qui marque notre représentativité. Et nous avons eu des élections pour le CSM, où nous avons fait un score de 27,5%. Donc nous sommes effectivement minoritaires dans la magistrature.
Nicolas Hervieux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, vous êtes spécialiste de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et vous êtes chercheur au Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, le CREDOF, à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Et Richard Malka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialiste du droit de la presse et de la liberté d'expression. Vous avez notamment assuré la défense de Charlie Hebdo dans le procès des caricatures de Mahomet, c'était en 2007, c'est ça ?
Absolument.
Et vous êtes scénariste de bande dessinée, vous venez de publier La vie de palais, il était une fois les avocats aux éditions Marabule. Les dessins sont signés Catherine Meurice. Alors Richard Malka, je voudrais vous proposer pour cette émission de jouer le rôle de censeur, et si jamais je venais à me tromper dans le lexique judiciaire, qui, comme vous le soulignez dans la bande dessinée, est souvent malmené par les journalistes. Donc je vous propose, si je confonds cour et tribunal, par exemple, de me le dire et de le signaler aux auditeurs afin de rétablir un petit peu de...
Une fois n'est pas coutume, j'accepterai ce rôle de censeur.
Je vous remercie. La première... J'en ai pas fini avec vous. La BD donc, que vous publiez, La vie de palais, il était une fois les avocats, il y a beaucoup de clichés que vous... On a l'impression que vous êtes... que c'est une tentative de faire tomber plusieurs clichés sur les avocats. Il y en a beaucoup dans la société. Quel est le cliché qui vous énerve le plus à propos des avocats ?
Oh bah c'est peut-être celui que je raconte dans la première planche de cette bande dessinée. Et ça arrive 400 fois par an à tout avocat qui se retrouve à un dîner ou à un cocktail ou avec des amis. Et il y a toujours un moment où arrive la même question. Mais comment tu peux faire pour défendre un coupable ? Et alors, au bout d'un moment, les premiers mois, on répond. Et puis au bout d'un moment, on en a marre. On dit, bah, ça nous amuse, on adore ça. Parce qu'on ne peut plus argumenter sur cette question au bout de la 500e fois où elle est posée. Donc voilà, il y a comme ça tout un ensemble de clichés et de choses un petit peu drôles et amusantes qui peut arriver à une jeune collaboratrice quand elle débute, et c'est son histoire que je raconte.
L'histoire avec, de Jessica.
Voilà, Jessica, m'inspirant d'ailleurs de ma propre collaboratrice à l'époque, confrontée à l'ingratitude des clients, parfois à des magistrats difficiles, à des patrons un peu durs, au machisme de la profession d'avocat. C'est une BD où je dis, où je raconte ma profession, parfois de manière un peu acide, mais au fond avec une grande tendresse.
Alors on va retrouver d'autres occasions d'évoquer les aventures de Jessica dans cette émission. Revenons au cœur de notre sujet. On parle donc de l'affaire Guénot qui a été relaxée il y a 15 jours, c'était pile jeudi dernier. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une critique à faire publiquement sur cette décision de justice, sur cette décision d'être relaxé? Est-ce que vous pouvez faire cette critique, Nicolas Hervieux?
Absolument pas. Moi, je ne critiquerai pas cette décision de justice parce que je trouve qu'elle est, elle va dans le sens du vent de la jurisprudence, aussi bien nationale qu'européenne, et surtout européenne. Et on retrouve d'ailleurs dans cette décision une expression tout à fait typique et topique, l'idée de limite de la critique admissible. Et le fait que le tribunal se saisisse de cette expression montre que ce tribunal a parfaitement compris tout le sens du principe de liberté d'expression garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 10, et qui pose ce principe que on peut s'exprimer et l'on peut critiquer. Et on a un droit de critique tout à fait protégé au regard du droit européen, avec des illustrations assez éclatantes. L'année dernière, par exemple, on en a beaucoup entendu parler, la fameuse affaire sur le délit d'offense au chef d'État, l'affaire Casse-toi pauvre con, qui a donné lieu à une condamnation retentissante de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, au motif qu'il est possible de critiquer jusqu'au chef d'État, jusqu'au président de la République, même de manière satirique. Et donc ce qu'il est possible de faire envers le président de la République, il est tout à fait aussi possible de le faire envers un magistrat. Ça, c'est le principe.
Françoise Marthe, vous qui êtes magistrate, est-ce que vous avez été choquée par cette décision de relax d'Henri Guénot?
Alors, je ne commenterai pas non plus cette décision. Alors, pour d'autres raisons...
Est-ce que vous ne pouvez pas?
Non, ce n'est pas la question. La question, si vous voulez, c'est que, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le principe fondamental de la protection de la liberté d'expression. Mais pour nous, après, la question, c'est celle des abus de la liberté d'expression et de ses limites. Nous considérions, nous, que Henri Guénot avait été au-delà de ce qui était admissible, que ses propos étaient très violents et qu'il avait voulu déstabiliser la justice. Par contre, nous considérons que la voie pénale, c'est-à-dire la répression dans ce type d'affaires, n'est pas la bonne voie. Nous n'avions pas appelé, contrairement au syndicat majoritaire des magistrats, nous n'avions pas appelé à des poursuites contre Henri Guénot parce que nous pensons que la solution pour prévenir ce type d'attaque violente contre la justice et n'est pas dans la répression. Henri Guénot, c'est parfaitement ce qu'il fait quand il s'exprime sur une décision du juge d'instruction. L'exemplarité de la peine n'a aucun sens en l'espèce et c'est pas comme ça qu'on va régler le problème du respect de l'institution judiciaire. Donc nous avions d'autres solutions et c'est pour ça que je ne commenterai pas cette décision de justice parce que pour nous, ce n'était pas la bonne réponse en tout cas, même si effectivement, ces propos posaient question quand même sur le respect de l'indépendance de la justice.
Est-ce que cette décision, je vous donne tout de suite la parole, Richard Malka, est-ce que cette décision, elle confirme peut-être une tendance actuelle où la justice est de plus en plus tolérante à l'égard des critiques qui lui sont faites?
Alors, c'est beaucoup plus large que ça. En réalité, cette décision s'inscrit totalement, comme ça a été dit, dans la jurisprudence, à l'égard de tout le monde, des journalistes, dont la liberté de parole est de plus en plus grande, des politiques, et on admet, y compris, et il y a quelques mois, alors vous avez utilisé une expression con, je suis désolé pour les auditeurs, je vais utiliser une autre expression un peu désagréable, enfin il y a quelques mois, la même chambre a estimé que qualifier Madame Le Pen, et Dieu sait les réserves qu'on peut avoir sur cette dame, mais enfin la qualifier de salope fascisante, ce n'était pas une injure. Donc à partir de ce moment-là, comment considérer dans la même jurisprudence que ce qui a été dit par M. Guénot sur les magistrats serait condamnable? Et je précise que cette jurisprudence un peu libérale et protectrice de la liberté d'expression, et c'est assez étonnant de le remarquer, a commencé dans les années 70 avec une décision qui déjà concernait les magistrats.
Vous nous la rappelez?
C'était Jean Foyer, le ministre de la Justice d'alors, qui poursuivait votre syndicat, madame, je crois, avec des mots très durs, l'accusant d'avoir noyauté la magistrature, l'accusant d'être des mauvais magistrats, d'être un syndicat toxique, en gros. Le syndicat de la magistrature avait poursuivi, ça avait été jusqu'à la Cour de cassation, et finalement la Cour de cassation, dans une décision qui fonde un peu le droit à la polémique depuis cette période-là, a considéré que c'était peut-être très injuste, c'était peut-être très excessif, mais c'était la liberté d'expression, de débat et de critique. Et dans une société qui respire, il faut permettre, y compris les attaques un peu excessives, virulentes, voilà. Et aujourd'hui, prétendre qu'une corporation, quelle qu'elle soit, et même les magistrats auxquels on doit évidemment beaucoup de respect, seraient à l'abri de cette liberté de critique, c'est pas possible. Ça ne passe plus, et c'est ce qu'a dit la 17e Chambre courageusement et très justement, à mon avis.
Alors, vous dites depuis les années 70, peut-être la liberté d'expression gagne du terrain. Je voudrais quand même qu'on rappelle, alors on a travaillé un petit peu notre droit dans l'équipe du Grain à Moudre pour préparer cette émission, et donc on a découvert cet article, l'article 434-25 du Code pénal, qui sanctionne le fait de jeter le discrédit publiquement, par acte, parole, écrit, je le passe un peu, mais en tout cas, de jeter le discrédit de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Qu'en est-il de cet article, Nicolas Hervieux ? Est-ce que on peut encore condamner quelqu'un pour ses propos au nom de cet article ?
Ce qui est assez fascinant, c'est que le droit, formellement, n'a pas beaucoup changé. Les textes sont toujours les mêmes, mais ce qui a changé, c'est la manière dont on les applique. C'est-à-dire que identifier l'idée d'un discrédit sur la justice, on ne le fait plus aujourd'hui de la même manière qu'on le faisait il y a quelques années. Alors si, et j'invite les auditeurs à l'occasion à ouvrir un code pénal et à regarder les petites annotations qui se trouvent sur cet article, on trouve des exemples un peu amusants, où dans les années 30 ou dans les années 40, le simple fait, notamment, je fais référence à un arrêt un jugement plus précisément de 1930 où le justiciable qui avait été condamné s'est exclamé à l'annonce de la condamnation « Ah, ce jugement-là, il faudra l'encadrer ». Et cette seule expression, cette seule exclamation a suffi à ce qu'on le sanctionne pour outrage à
un magistrat. Pourtant, c'est assez faible par rapport à ce qu'a dit Henri Guénaud.
Exactement. Alors que de nos jours, ce type de comportement, ce type d'expression ne donnerait pas lieu à critique, précisément au regard de l'évolution de l'approche de la notion de liberté d'expression. Et pourquoi on a désormais une plus grande tolérance envers les critiques, envers les magistrats ? Tout simplement parce que les magistrats sont un rouage de la société démocratique et exercent un pouvoir au nom de cette société démocratique. Et c'est à ce titre qu'ils sont aussi, comme un fonctionnaire ou comme un homme politique qui exerce une fonction élective, objet d'un regard démocratique, un regard critique. Et c'est à raison de l'exercice de ce pouvoir qu'ils sont plus exposés à cette critique.
Françoise Martre, alors sortons de l'affaire Guénaud. Généralement, vous n'êtes pas inquiète du fait que l'utilisation de cet article tombe un petit peu en désuétude ?
Bon, d'abord, il est assez peu utilisé. Il faut être clair, il y a très très peu de poursuites. Alors, nous nous sommes constitués en syndicat. Le syndicat de la magistrature s'est constitué il y a plus de 45 ans pour sortir la justice de sa tour d'ivoire. On ne pouvait pas critiquer, c'est ce qui vient d'être dit par Nicolas Hervieux, on ne pouvait pas critiquer la justice. Nous considérons, nous, que justement, il est tout à fait normal dans une société démocratique que le citoyen ait ce regard critique sur la justice, sur son fonctionnement, sur les conditions de nomination des magistrats et sur sa production, c'est-à-dire quelle justice y rend, dans quel domaine, est-ce que par exemple, comment il lutte contre la corruption, comment, voilà. Tout cela, c'est, nous paraît participer du débat démocratique et nous nous battons, nous, syndicats de la magistrature, pour justement participer à ce débat, parce que nous pensons qu'il est essentiel dans notre société. Pour revenir un peu, donc la justice est de plus en plus transparente et c'est normal qu'il y ait ce regard citoyen sur son fonctionnement. C'est un rouage essentiel de notre société. La justice doit être indépendante, elle doit être égale pour tous et les citoyens ont le droit de venir dire non, elle n'est pas égale pour tous ou non, elle n'est pas suffisamment indépendante. Et donc, en faisant cela, on regarde aussi les décisions et on les critique. Quand nous disons que les propos d'Henri Guénaud étaient très violents, c'est parce que dans certaines affaires, on a fait, mais c'est pas qu'aujourd'hui, revenons à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'était aussi la même chose. C'est que lorsque l'on veut se défendre, lorsqu'on est mis en cause, une personnalité est mise en cause dans une affaire, la tendance, c'est l'attaque comme moyen de défense. Et nous pensons que c'est très compliqué pour les citoyens ensuite de s'y retrouver lorsque des hommes politiques de premier rang se livrent à ce type d'attaque. C'est en cela que je disais tout à l'heure que les propos d'Henri Guénaud paraissaient très, voilà, pour nous, étaient au-delà de ce qui était admissible. En disant ça, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait aucune critique. Je dis simplement que il faut. Alors, le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi hein, à la suite de ces attaques et a dit qu'il faut aussi que le fonctionnement de la justice soit mieux expliqué aux citoyens, parce que les parlementaires sont protégés, par exemple, lorsqu'ils tiennent des propos dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ils ont une immunité pour ces propos et on est plus tolérant vis-à-vis de parlementaires que vis-à-vis du simple citoyen. Mais à la fois, quand c'est un parlementaire qui s'exprime d'une façon aussi violente, hein, ça a un poids très très important. Donc il faut expliquer mieux tout cela.
Alors le juge Gentil ne pouvait pas répondre, puisque légalement un juge ne peut pas répondre aux accusations, mais à l'époque beaucoup de personnalités ont pris sa défense par tribune interposée, ont reproché à Henri Guénaud son manque de républicanisme. Il y avait par exemple une grande tribune du sénateur André Valigny, et donc le sujet est quand même assez épidermique, on l'a vu à ce moment-là. Et comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'on est réticent à critiquer la justice parce que nous ne voulons pas voir qu'elle pourrait faire des erreurs, peut-être, Richard Malka?
Et je crois qu'aujourd'hui, tous les pouvoirs sont désacralisés. Et la justice comme les autres. C'est la société telle qu'elle est. Donc cette infraction-là, c'est une infraction d'un autre temps. Et madame a raison, elle est quasiment plus utilisée aujourd'hui. Pour autant,
pourtant, beaucoup de gens y tiennent. À l'appui de toutes les tribunes qui ont été publiées pour attaquer Henri Guénaud.
Non, simplement, avant votre émission, j'écoutais le journaliste qui commentait la décision de la Cour de justice de la République et qui l'a critiquée, manifestement. Est-ce qu'il faut le poursuivre? Parce qu'il a critiqué, non, c'est la démocratie, c'est le libre débat. Il y a des manières de réagir autres que des poursuites judiciaires. Il y a des critiques, il y a effectivement des tribunes, on peut contester, on peut dire que M. Guénaud a été trop loin, et je pense qu'il a été trop loin, parce que dans le cas présent, moi ça ne me choque pas du tout qu'il critique le fonctionnement de la justice, mais là ça dérape un peu vers une attaque personnelle, vers le juge Gentil qui... je ne connais rien à cette histoire, mais qui effectivement ne peut pas répondre. Parce que sinon, il est dessaisi. Il ne peut pas s'exprimer sur une instruction qui est en cours. En l'occurrence, il a eu des porte-paroles. Il y a une réflexion à mener sur la communication de la justice. Mais c'est un sujet difficile. Parce que comment parler d'affaires en cours quand on est du côté de la justice? Mais la réponse judiciaire n'est certainement pas la bonne. Moi, je ne crois pas que le peuple soit choqué parce que l'on puisse critiquer la justice. Je pense que c'est le contraire qui le choquerait.
Nicolas Hervieux, vous voulez réagir?
Oui, tout à fait. C'est vraiment cette idée que, à partir du moment où l'on aborde des sujets d'intérêt général aussi, il faut bien replacer dans le contexte, cette affaire Guénaud ne concernait pas non plus un simple conflit de voisinage. Il est évident que ça concerne aussi des protagonistes qui ont une ampleur politique assez importante. Ça relève de ce que l'on appelle le débat d'intérêt général et qu'à ce titre, discuter des conditions dans lesquelles un ancien président de la République a vocation à être mis en cause dans une affaire de justice, eh bien, implique nécessairement que l'on puisse en débattre, en discuter. Et la voie pénale n'est sans doute pas la meilleure voie pour éventuellement protéger la justice contre les critiques, parce qu'effectivement, si l'on utilise la voie pénale, ça place la justice dans une position de victimisation et donne une tribune considérable à la personne qui, justement, critique la justice. Le fait qu'on mette en cause et qu'on initie des poursuites pénales contre Henri Guénaud lui a donné une tribune politique supplémentaire, alors que, effectivement, vous l'avez souligné, le débat politique et médiatique a eu lieu, il y a des prises de position qui ont eu lieu sur était-il nécessaire, était-il opportun qu'Henri Guénaud critique ou non le juge Gentil. D'autres personnes ont pris la parole pour contester cela. Il y a une autre manière de traiter ces questions de débat démocratique en dehors du prétoire. C'est d'ailleurs ce que souligne l'avis du CSM en insistant sur l'idée de communication des juges et de possibilité pour le magistrat d'être défendu sans se retrouver lui-même en porte-à-faux et en situation de partialité s'il réplique à la personne qu'il attaque. Cela relève d'une réflexion de l'institution judiciaire dans son ensemble pour qu'elle fasse de la pédagogie et qu'elle soutienne aussi éventuellement l'un de ses membres qui serait attaqué, mais certainement pas par la voie pénale.
Est-ce que les parlementaires, enfin les hommes politiques et particulièrement les parlementaires, bénéficient d'une d'une sorte de clémence sur leurs propos au nom justement de la séparation des pouvoirs et de l'affrontement entre ces pouvoirs, comme vous le disiez, qui alimente le débat public. Mais est-ce que du coup, ils auraient une clémence, disons, supérieure aux citoyens lambda ?
Par nature Nicolas et par Hervieux. Définition, les parlementaires dans l'enceinte de l'Assemblée bénéficient d'une immunité. Elle relève de l'article 26 de la loi de 1881. Cette immunité est totale. En dehors du Parlement, les parlementaires ne se retrouvent pas dans la situation d'un citoyen normal. Ils sont des personnages politiques, ils sont des élus, et à ce titre, et là encore une fois on peut faire référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ils bénéficient d'une liberté d'expression renforcée, comme les journalistes, comme les universitaires par exemple, comme un ensemble d'acteurs de la société démocratique. Et donc les parlementaires et plus généralement les personnages politiques ont une protection plus forte. Et c'est d'ailleurs un élément qui a été tout à fait déterminant dans la manière dont le tribunal a statué dans l'affaire Guénot.
Richard Malka ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Simplement un tempérament. Il n'y a pas de privilèges qui sont accordés. Il y a effectivement un privilège d'immunité dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, et c'est bien normal, parce que sinon, alors là, on est dans le politiquement correct, y compris dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, de la même manière que les avocats et toutes les personnes étant devant un tribunal sont couverts par une immunité. La même. Les avocats, les magistrats, les témoins, on ne peut pas être poursuivi pour ce que l'on dit à l'intérieur d'un tribunal. À quelques exceptions près. Mais non, il y a une immunité.
La loi pour 1880, les avocats.
Absolument pas. Non, non, pour les avocats, nous sommes dans une totale immunité.
Oui, pour absolument. Les avocats, mais pas pour les personnes qui comparaissent.
Ah, mais y compris pour les personnes.
Non, vous pouvez donc pas. Donc nous ne sommes pas tous égaux dans la critique de la justice.
Non, il y a une immunité. Vous ne pouvez pas les poursuivre sur le fondement de la diffamation, de l'injure, dispositions
d'accord.
De la loi. Donc il y a une liberté d'expression.
Oui.
Mais, et alors pour le reste, si on est hors du cadre de ces enceintes-là, il y a une liberté plus grande qui est accordée parce que vous êtes parlementaire et que donc on considère que vous avez le droit et que c'est légitime et qu'il faut que vous contribuiez au débat. Mais la même liberté est accordée un peu plus grande aux avocats parce qu'ils sont dans la passion et dans la défense de leurs clients, ou à toute personne qui est partie à une polémique. Il y a une jurisprudence, la jurisprudence est établie de la 17e chambre, considérant que lorsque l'on est parti à une politique, à une polémique, eh bien, on a une liberté d'expression est plus grande et les limites que vous évoquiez sont repoussées.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Peut-on critiquer les décisions de justice ? C'est notre débat ce soir et on en débat avec Françoise Martre du syndicat de la magistrature, avec Nicolas Hervieux, juriste, et avec Richard Malka, avocat au barreau de Paris. Alors, on débat depuis tout à l'heure de la légitimité, de la possibilité de la légitimité de la critique. Si on en vient au fond de la critique, est-ce que dans le match politique magistrat qui a lieu régulièrement et qui a eu lieu récemment avec Henri Guénot, il n'y a pas en fond un procès qui se joue sur la question de la légitimité du pouvoir et donc dans la critique des politiques, est-ce que derrière il ne faut pas entendre, nous sommes des élus, vous n'avez pas cette légitimité. Et c'est ça, c'est bien ça finalement qu'on vous reproche, Françoise Martre.
Qu'on reproche à la justice, effectivement, parce qu'on oppose toujours la politique et la justice en disant à la justice, vous, qu'est-ce que vous venez vous mêler de politique en instruisant des procédures contre des hommes politiques, en choisissant son moment. Les juges sont accusés de choisir leur moment pour contrer un retour en politique ou ce genre de choses. Or, moi, je tiens à rappeler que la justice ne choisit pas, enfin, en tout cas, les juges ne choisissent pas qui ils vont, quelles affaires ils vont instruire, quelles affaires ils vont juger. Le problème, c'est la légitimité des juges, mais c'est que voilà, ils ont été nommés, ils sont nommés à la suite d'un certain processus, d'un concours, etc. Ils rendent la justice au nom du peuple français, mais ils ne font aucun choix finalement dans ce qu'ils vont avoir à juger, parce que s'ils le faisaient, alors quelle serait leur légitimité justement de dire par exemple telle personnalité, je ne vais pas m'en occuper maintenant parce que et je vais m'en occuper plus tard, ou je ne vais pas instruire. Ils sont obligés, les juges font leur travail quotidiennement, c'est-à-dire qu'ils instruisent les affaires qu'ils ont à instruire. Alors le problème, c'est moi, je dirais que la difficulté, c'est plutôt celle du temps médiatique et du temps de la justice, parce que la justice prend beaucoup de temps pour instruire un certain nombre des affaires de cet ordre-là. Et donc, chacun est légitime, si vous voulez, hein, les parlementaires à critiquer le fonctionnement de la justice et la justice à travailler. Mais en tout cas, la justice, elle, ne fait pas de choix.
Nicolas Hervieux, il y a une affaire que vous connaissez bien, celle de maître Olivier Maurice, qui avait, alors vous nous refaites peut-être un petit peu l'historique rapidement de cette affaire. Maître Olivier Maurice, donc l'avocat d'Elisabeth Borel dans l'affaire Borel, qui donc avait attaqué publiquement, dans des propos publics, deux juges, et il entendait, je le cite, montrer le fonctionnement défectueux de la justice sans attaque personnelle contre les magistrats. Alors là, c'était une critique légitime ?
Et c'est précisément, alors un petit tempérament à ce que disait Richard Malka sur cette liberté élargie des avocats de critiquer la justice en dehors du prétoire. Effectivement, il a été, Olivier Maurice, condamné pour diffamation envers deux juges d'instruction, avec pour les propos qu'il a tenus dans le journal Le Monde, avec Laurent Decaune. Et cette condamnation a été confirmée jusque devant la Cour de cassation. Il a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme et devant ce qu'on peut appeler la première instance de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'a pas réussi à faire condamner la France pour violation de l'article 10, la Cour ayant dit que la critique de l'avocat envers la justice doit être un peu moins tolérable eu égard à sa position intermédiaire entre le justiciable et le juge. Alors cette affaire a donné lieu à un renvoi en grande chambre. J'ai eu l'honneur et le plaisir de plaider en faveur d'Olivier Maurice avec Laurent Petitti. Cette affaire va être tranchée par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la formation la plus solennelle de la Cour, et espérons-le, la Cour pourra consacrer cette liberté de critique de l'avocat en dehors du prétoire lorsque cet avocat s'exprime dans l'intérêt de son client. Ce qu'il faut bien comprendre dans le pourquoi de cette liberté d'expression plus vaste, c'est la finalité qu'il y a derrière. Lorsqu'un homme politique s'exprime et critique, c'est au nom de la société démocratique. Lorsqu'un avocat s'exprime et critique et prend parti, c'est au nom de sa mission de défense des avocats. Et ce n'est pas simplement pour protéger les hommes et les femmes qui critiquent, mais pour protéger la mission qu'ils exercent à travers leurs propos. Et c'est à ce titre que la protection doit être beaucoup plus vaste.
Richard Malka, la critique peut paradoxalement renforcer la légitimité d'une institution, en l'occurrence la justice ?
Ben je crois, parce que là, enfin, c'est un des grands fondements de la séparation des pouvoirs et de la démocratie. La critique fait que vous vous améliorez. La critique peut être constructive, elle peut être positive. Alors, il y a toujours des limites à la critique. Il n'y a aucune liberté qui est absolue, y compris la liberté d'expression et y compris celle des avocats. Je ne sais pas quelles sont les données de l'affaire auxquelles vous faites référence, mais il peut y avoir des dérapages qui doivent être sanctionnés malgré la grande tolérance et malgré les limites extensives.
Pourtant, depuis le début de cette émission, je ne vois pas où vous mettez la limite, Richard Malka.
Il y a des condamnations tous les jours pour diffamation, pour injure. Attention, on est sur des délits différents. Là, je parle de la diffamation, de l'injure, pas du délit de discrédit à la justice qui est très 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 spécifique. Maintenant, pour répondre à madame qui décrit un monde quand même un peu idyllique du côté de la justice, moi je trouve d'abord mortifère la guerre actuelle que se livrent le monde politique et le monde judiciaire. Je pense que ces deux pouvoirs s'en trouveront affaiblis, que personne ne sortira gagnant de cet affrontement, excepté le populisme. Et les politiques ont des responsabilités pour faire en sorte que la justice soit respectée. Mais on ne peut pas dire que tous les juges se gardent et restent de côté de toute considération politique. Bien sûr que ce ne sont pas eux qui décident qui ils vont juger, mais ce sont quand même eux qui ont parfois une pratique vis-à-vis du secret professionnel qui peut être particulière. Et ce sont aussi eux qui décident parfois de mettre des moyens hallucinants et colossaux dans des dossiers, alors que s'il n'y avait pas un puissant et un personnage médiatique, ils en utiliseraient 50 fois moins. Donc, les torts sont peut-être pas partagés, mais Il y a une réflexion d'ensemble, non sectaire à mener et non manichéenne.
Les juges ont le devoir de déplaire, a dit un jour le magistrat Éric de Montgolfier. Françoise Martre, est-ce que pourquoi les juges ne pourraient pas assumer finalement d'avoir le mauvais rôle dans la société ? Les juges sont-ils là pour être aimés, j'ai envie de me demander.
Ah ben, pas forcément, non. Moi, je ne parlerai pas de mauvais rôle. Les juges font leur travail. Alors, moi, je veux bien accepter les critiques sur les pouvoirs des juges d'instruction. On peut en débattre. On en a beaucoup débattu au moment des écoutes. Est-ce qu'il faut vraiment mettre en place tous ces instruments? Ça, c'est un vrai débat. Je pense que... Je ne suis pas persuadée que les juges entrent dans le jeu politique. Après, la question cruciale, c'est celle de l'indépendance de la justice. Parce que si les juges, eux, ne choisissent pas les affaires qu'ils ont à juger, ce sont les procureurs qui souvent ouvrent les informations judiciaires. Et pour résumer un peu la manière dont nous voudrions finalement éviter ce type de polémique entre les politiques et la magistrature, c'est que nous pensons qu'il faut renforcer justement l'indépendance de l'autorité judiciaire. Enfin, il faut que ce soit une vraie institution démocratique. C'est-à-dire à la fois dont l'autorité est incontestable, et donc il faut qu'elle soit indépendante et à la fois qu'elle puisse être critiquée dans les limites qu'on a dit. Mais ça, aujourd'hui, si vous voulez, il est absolument impossible d'opter. On est toujours avec une institution judiciaire affaiblie par un statut qui ne protège pas son indépendance. Aujourd'hui, et par ailleurs, le magistrat, lui, il est complètement isolé lorsqu'il est la cible de telles critiques, parce que tout le monde peut s'exprimer, le justiciable peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a que le juge qui, lui, ne peut pas saisir cet organe qui est censé garantir son indépendance. Donc il faut vraiment progresser dans la conception qu'on peut avoir de l'indépendance de la justice.
Garantir l'indépendance d'une part et d'autre part se prémunir contre ce qu'on appelle souvent le gouvernement des juges, qui est quelque chose qui est très répandu dans l'opinion publique. Nicolas Hervieux, qui contrôle les juges ?
Alors, juste avant, parce que ça me semble important de le préciser, il y a quand même des cas où l'on peut envisager de légitimement sanctionner des critiques envers des juges, lorsque ça tourne à l'insulte gratuite, c'est-à-dire lorsqu'on ne vise pas la fonction et la manière dont on exerce ces fonctions lorsqu'on est juge, mais la personne, tout simplement. Et ça, on peut toujours faire référence aussi bien à la jurisprudence de la Cour de cassation qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui estime qu'il est nécessaire de... pouvoir sanctionner les attaques gratuites, destructrices, dénuées de fondements sérieux. Cela existe. Et toujours dans l'optique de protéger la société démocratique, parce qu'il s'agit de protéger la justice, qui est aussi un rouage important dans l'intérêt de la population. Alors après, qui contrôle les juges ? Je pense que c'est un débat qui dépasse largement les limites de nos discussions ici. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il faut replacer ça dans la lutte qui existe aujourd'hui entre la légitimité du personnage politique et la légitimité du pouvoir judiciaire. Avec ce jeu de dupes aussi, où il est assez fréquent que les hommes politiques critiquent à bon dos facilement les juridictions et le pouvoir judiciaire. Lorsque ce pouvoir judiciaire intervient sur certains sujets de société extrêmement sensibles, on pense à la bioéthique, on pense à un sujet sur la gestation pour autrui, sur l'avortement, que sais-je encore. C'est un jeu classique où l'homme politique va critiquer le juge qui va intervenir sur des espaces considérés comme démocratiquement plus sensibles. Chacun est à sa place, mais en tout état de cause, il est assez sain que l'on puisse en discuter et qu'il puisse y avoir un débat assez large qui ne soit pas limité par le droit pénal et par la sanction pénale.
Françoise Martre, vous avez évoqué la figure du juge d'instruction. Richard Malka, est-ce que le juge d'instruction est encore aujourd'hui, pour être dans les clichés et pour démonter peut-être les clichés, comme vous le faites dans votre bande dessinée, est-il encore un des personnages les plus puissants en France ?
Ah bah, il reste un personnage extrêmement puissant, clairement, en dépit de toutes les réformes. Moi, je l'ai dit déjà, je suis pour la suppression du juge d'instruction.
Parce qu'il a trop de pouvoir ?
Parce qu'on n'arrive pas à réformer cet institut. Non, parce que le concept de base ne fonctionne pas. On ne peut pas instruire à charge le matin et à décharge l'après-midi. Et vous aurez toujours des dérapages. Ce n'est pas, à mon sens, conforme à une société moderne. J'aimerais qu'il y ait un juge de l'instruction plutôt qu'un juge d'instruction, et avec, comme madame le disait, et c'était ce que l'on pouvait reprocher au projet de réforme qui avait été engagé, avec nécessairement un parquet indépendant. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Sinon, il y a un vrai risque de mainmise du politique sur la justice. Enfin, un parquet indépendant hiérarchiquement, moi je tiens par contre à ce que la politique pénale, elle, reste nationale et que tous les parquets soient soumis à la même. Sinon, on est dans une régionalisation qui est également dangereuse.
Bon, on va pas débattre de la réforme globale de la justice. Juste, si on aborde le juge d'instruction, c'est pour ce qu'il représente aussi symboliquement. C'est un juge qui est connu de l'opinion publique parce qu'il y a des personnalités qui sont très médiatiques et aussi parce qu'il y a eu des affaires qui l'ont mis en lumière. Évidemment, il y a l'affaire Doutreau qui a fait parler beaucoup du juge d'instruction. Est-ce que la question de l'image, de l'opinion publique, elle est importante? Est-ce que quand vous étiez juge d'instruction, Françoise Marthe, vous posiez la question de l'accueil qui serait fait par le public de votre jugement? Est-ce que ça vous influençait?
Quand vous êtes juge d'instruction, vous êtes au cœur de toutes les pressions. Enfin, pression, c'est pas ça. C'est, vous exercez un métier extrêmement difficile. Vous êtes un juge du siège. Vous êtes indépendant. Vous instruisez à charge et à décharge. Bon, moi, je pense que c'est possible. Mais c'est vrai que c'est peut-être un système qui, aujourd'hui, a atteint ses limites. Il faut donc une réforme de l'instruction. Nous, on a aussi prononcé... Enfin, nous, on ne serait pas... opposé à la suppression du juge d'instruction en tant que tel, si les parquets étaient indépendants. Mais les juges ont toujours conscience, pour revenir à votre question, les juges ont toujours conscience de l'impact de leurs décisions. Après, ils doivent les rendre, ces décisions. Donc, que ça influence quelque part dans les décisions qu'on prend, oui, forcément, vous êtes un juge, il est dans la cité, il n'est pas hors sol, et il est forcément influencé par tout ce qui peut être dit. D'où l'importance, justement, de ce que l'institution judiciaire, si elle peut être critiquée, soit respectée. Parce que quand, comme on a connu dans les années, le précédent quinquennat, des critiques récurrentes sur le fonctionnement de l'institution judiciaire ou des appels à une justice sévère, etc., forcément, vous êtes quelque part, voilà, ça finit par jouer d'une manière ou d'une autre. Comment? Je ne peux pas vous le dire, parce que ça fait partie de l'intime du juge. Mais c'est très, très important que les institutions soient respectées, la séparation des pouvoirs soit respectée, mais que aussi le citoyen puisse avoir ce regard critique sur le fonctionnement de la justice.
Est-ce qu'un outil comme la QPC, donc la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet depuis 2010 à un justiciable de contester la conformité à la constitution d'une loi, alors là on parle d'une loi, on ne parle pas d'une décision de justice, mais est-ce qu'un outil comme celui-là peut réconcilier aussi, améliorer la vision de la justice par les citoyens, Nicolas Hervieux?
C'est une question plus large, c'est un juge décide ou un collège de juges décide, mais il y a aussi des voies de recours qui sont accessibles. La question prioritaire de constitutionnalité, c'est un moyen pour le justiciable de confronter, alors non pas la décision du juge, mais les textes qui sont applicables à ce justiciable au regard des droits et libertés. C'est cette idée de protection des justiciables par les droits et libertés qui constituent un rempart, alors évidemment contre l'action arbitraire, mais aussi contre les décisions des juges qui seraient erronées, et on sait très bien que l'erreur est humaine, on l'a vu en évoquant l'affaire Doutreau. La protection des droits et libertés des justiciables, la protection des droits de la défense, la possibilité d'exercer des recours permet de limiter finalement le pouvoir du juge et sans doute aussi de le soulager, parce qu'en pouvant se reposer sur d'autres juridictions plus solennelles, comme le Conseil constitutionnel ou d'autres juridictions suprêmes, eh bien le juge peut plus sereinement exercer ses fonctions dans l'intérêt du justiciable.
Richard Malka, un dernier petit mot, c'est de l'avocat, dernier mot à la défense pour conclure.
L'avocat va défendre les juges. Moi, je voudrais dire quand même que, mis à part peut-être le problème du juge d'instruction qui se pose aujourd'hui, on a une justice qui fonctionne bien, une justice civile qui fonctionne bien, une justice pénale qui fonctionne plutôt bien, avec beaucoup moins de budget que beaucoup d'autres pays européens, qui reste accessible aux citoyens et avec des magistrats compétents.
Merci beaucoup à tous les trois, Françoise Martre, Nicolas Hervieux, Richard Malka. Notre sujet de lundi, la défense de l'environnement nuit-elle au développement économique? Et c'est Hervé Gardette que vous retrouverez au micro du Grain à Moudre dès lundi